France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, soyez les bienvenus, moi c'est Déborah Grunewald, ce podcast c'est Dans le Rétro et le principe c'est qu'on va voyager dans le temps au rythme de la carrière de notre invité, une carrière qui nous permet de nous interroger sur la vie, les épreuves, sur ce passé qui nous construit, comme souvent en parlant de ces artistes, on parle un peu aussi de nous. Aujourd'hui nous sommes avec une actrice, réalisatrice, joyeuse et lumineuse, une humoriste talentueuse, elle monte sur scène non pas pour se faire aimer mais pour donner, c'est aussi une enfoirée et ça date pas d'hier. Mon invité aujourd'hui, Michel Larocque, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Michel Larocque.
Bonjour.
Alors, enfoiré depuis 1997 au sein des Restos du Cœur, vous n'en avez pas marre d'être une enfoirée ? Ce serait bien que ça s'arrête au bout d'un moment, non ?
Ah, j'aurais aimé qu'on n'ait plus besoin de nous, mais comme ça n'est pas le cas, j'en aurais jamais marre. Et comme la chanson de cette année la disait, on reste jusqu'au dernier. Et ça, je suis très fière de pouvoir l'affirmer, de le penser sincèrement et de le faire.
Michel Larocque, aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de la comédie Karaoké. Vous êtes Bénédicte, chanteuse lyrique qui va foutre sa carrière en l'air en quelques secondes. Heureusement, Fatou est là. Fatou, jouée par Claudia Tagbo, femme de chambre et fan de karaoké.
Voilà. Il y a quand même deux intérêts conjoints qu'il faut qu'au début on s'allie, c'est que mon personnage donc est renvoyé de l'opéra et le personnage de Fatou aime le karaoké et se dit « Ah, il y a peut-être un moyen de gagner des concours avec la voix de la diva ». Et c'est magnifique parce que c'est la rencontre de deux personnes qui vraiment viennent de deux milieux différents, de deux cultures différentes. Mon personnage, elle a été sur une autre planète parce qu'elle s'est consacrée à son art et qu'elle a pas cherché à savoir comment se passait la vie sur Terre. Et le personnage de Fatou, elle travaille du matin au soir, elle a la famille, elle chante. Et mon personnage va découvrir la vie. Et voilà, et on est parti pour faire du karaoké. Ça démarre mal parce que mon personnage ne connaît pas du tout la variété française. Ça se passe pas bien la première fois, je me fais engueuler par Fatou et puis je vais bosser. Je bosse jusqu'au moment où on va aller faire des concours et gagner, être en finale au Japon.
Fatou, elle est super motivée, c'est un rêve pour elle, mais elle a cette phrase « Je vais pas y arriver, je suis pas à ma place, j'ai essayé ». Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça, vous, un jour ?
Peut-être avant, dans la vie. J'avais l'impression que j'avais pas de place, c'était très bizarre. Mais en revanche, quand j'ai assisté à mon premier cours de théâtre avec Julien Berthaud, après mon accident de voiture, j'ai eu l'impression d'être à ma place. Comme jamais j'avais ressenti. Et à partir de là, ça s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Il y a une phrase que vous m'avez dite un jour dans cette émission qui m'a marquée. C'est bien de se poser la question, est-ce que je suis sur mon chemin ou sur celui que les autres veulent me voir emprunter ?
Exactement. Et puis on fait tous la même chose. Souvent, on a parfois des parents qui veulent notre bien et qui décident un peu trop vite de quel est le bon chemin pour nous. Or, il n'y a que nous qui puissions savoir quel est le bon chemin.
Sauf que parfois, on a peur, on n'ose pas, on
ne
veut pas décevoir.
On ne veut pas décevoir, on ne veut pas contrarier. On est formaté aussi. Notre construction fait qu'on obéit un petit peu aveuglément. Et à la société aussi, il n'y a pas que les parents. Il y a la société, il y a le regard des autres. À partir du moment, je pense que c'est important que les parents apprennent aux enfants à être détachés du regard des autres.
Comment ça s'apprend ?
En parlant, en donnant des exemples, en étant soi-même un exemple aussi. En posant la question le matin à son enfant, qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire là, tout de suite ? Bon, c'est embêtant s'il ne dit pas aller à l'école, mais...
C'est ce qu'il risque de répondre d'ailleurs.
Non, mais vraiment, dire, voilà, c'est important que tu apprennes et après tu décideras, donc tu vas aller à l'école. Mais est-ce que tu as envie de jouer à quelque chose avant d'aller à l'école ? Donc tu te lèves un peu plus tôt, tu joues, tu te mets... Est-ce que tu as envie de chanter ? Est-ce que tu as envie de danser ? Est-ce que t'as... Et ça, c'est justement un truc un peu décalé qui peut aider un enfant à se construire sans être toujours
dans les clous.
Mmh. Ouais. Et s'écouter, quoi. S'écouter, écouter son cœur, ça c'est très important.
Bénédicte Autain, votre personnage dans le film Karaoké, Michel Larocque, est une personne qui n'arrive pas à faire semblant. Ne pas faire semblant, c'est être authentique ou c'est être arrogant ?
Alors vraiment, moi je dirais authentique. Malheureusement, ça peut se transformer en arrogance quand on est un petit peu inquiet de l'impact que ce que vous allez dire va avoir et du coup on le dit mal. Mais être vrai, être sincère et authentique, moi je trouve que c'est une super qualité. Et justement, c'est pas politiquement correct, ça ne va pas dans, on n'est pas dans les clous quand on fait ça, mais on est vrai. quelqu'un qui est comme ça, on peut tellement avoir confiance en lui. Être vrai aussi, c'est pas avoir besoin de séduire. C'est pas avoir besoin d'être dans les yeux des autres en disant « alors, je suis bien, je suis aimable, je suis belle, je suis beau, je suis... » C'est ça qui est aussi digne de confiance.
C'est un lâcher-prise.
C'est un lâcher-prise, oui, oui. C'est une confiance en soi qui n'est pas arrogante pour le coup, mais qui permet d'être libre. Voilà.
C'est très paradoxal avec votre métier.
Alors, le regard des autres
dans mon métier... Il est important dans votre métier.
Ça dépend comment on le place, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, j'essaye de ne pas monter sur scène pour me faire aimer, mais pour donner, donc ça ne peut pas rater. Là aussi, c'est sincère, c'est vrai, et qu'il y a un échange, parce que je reçois, hein. Donc c'est pas un bénévolat complet du style bonne sœur, hein. C'est vraiment, il y a un retour, il y a un vrai échange. Le regard des autres, moi je parle plus celui du regard de la société qui peut vous juger. Ça, c'est vrai que je m'en détache de plus en plus. Et c'est aussi un travail sur l'ego, un travail sur le fait de pas se sentir au centre de tout. On n'est pas aussi important que ça. Pour nous-mêmes, oui, mais pas pour les autres. Donc, il faut le savoir, ça. Et puis, ce que les autres perçoivent, c'est pas forcément la vérité. Même quand c'est des très gentilles choses hein, qu'ils perçoivent, ils nous connaissent pas. C'est l'image qu'ils ont de nous. Il faut le savoir, ça. Et du coup, ne pas prendre à 100% complètement les compliments ou l'adoration qu'on peut avoir pour nous. Ils ne nous connaissent pas, les gens.
On s'éloigne du film. Qu'on parlait de thématiques finalement propres au film, mais c'est ça aussi. Ce film-là, c'est aussi un regard sur la société, sur le vivre ensemble, sur tout ça finalement.
Ouais, et puis sur la différence et le fait que c'est très important d'être attiré, curieux, à l'écoute et en observation de ceux qui sont différents de nous. C'est personnel. Moi, je trouve que les plus beaux enfants, c'est les enfants de couple mixte. Voilà, point. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est incroyable. C'est riche.
C'est une richesse.
C'est magnifique. Et dans les relations qu'on a, c'est important.
C'est une richesse, mais qui peut devenir une peur pour certains aujourd'hui.
Et je le comprends aussi. Simplement, c'est dommage. Passe à côté de choses merveilleuses.
Karaoké, c'est joyeux, vibrant. Ce sont deux vies, deux salles, deux ambiances, mais c'est l'envie commune de se dépasser, de se révéler, d'aimer et de rêver. C'est au cinéma en ce moment et c'est une comédie de Stéphane Benlassen avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. Je vous propose maintenant d'écouter la BO du film Juliette Armanet, Le dernier jour du disco, et on revient juste après avec Michel Larocque.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, te dire qu'il n'y a rien de plus.
Le dernier jour du disco, Juliette Armanet sur France Bleu, BO du film Karaoké avec Claudia Tagbo et Michel Larocque. Michel Larocque, notre invité dans le rétro.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
C'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Nous sommes à la clinique Santa Maria à Nice. Vous venez de naître. Votre père Claude est promoteur immobilier. Votre mère Doina, originaire de Roumanie, est danseuse et violoniste. Dans le journal, on vous appelle le bébé de la liberté.
Ouais, c'est classe, hein.
C'est mais pesant alors, aussi.
Le côté pesant, c'est juste que je suis un peu obsédée par la liberté. Ouais. Et donc, j'essaie de me débarrasser de tout ce qui entrave ma liberté.
C'est possible dans la société ?
On ne peut contrôler que soi-même, hein. Donc, des programmes qui m'échappent un peu, qui viennent des programmes intergénérationnels qui ne me concernent pas, ou l'impact de certains traumatismes.
Qu'est-ce que vous entendez par programme intergénérationnel ?
Dans votre famille, il y a peut-être eu, il y a 5 générations, je vous donne un exemple très rapide, un arrière-arrière-arrière-grand-père qui a eu la première voiture et puis qui s'est crashé et puis qui est mort, ok ? Et il a laissé sa femme avec des enfants en bas âge. Et elle dit, comme programme qui est faux, la voiture tue. Ce n'est pas vrai, c'est une voiture déficiente ou un mec qui conduit mal. Mmh. Et donc vous, 6 générations plus tard, vous n'arrivez pas à passer votre permis, vous le passez 24 fois alors que c'est important pour votre métier, ou vous le passez, malheureusement, vous avez un accident de voiture et vous mourrez. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arrêter, et il y a des méthodes pour ça. Et aussi les traumas qui vous contrôlent, parce que quand vous êtes encore avec des traumas dans vous, vous n'êtes pas libre, parce que ils vous ont donné des peurs, ils vous ont donné certains comportements. Donc voilà, je passe ma vie un peu à faire ça, à me débarrasser.
Il faut faire un énorme travail sur soi, en fait.
Oui, c'est ça, oui. Puis il y a des super thérapies là-dessus qui nous débarrassent des traumas. Donc le bébé de la liberté, je veux dire, je le paye d'être le bébé de la liberté. Mais non, c'est pas vrai, parce que c'est merveilleux de devenir soi-même.
C'est une émancipation.
De devenir soi-même, bien sûr.
Tout est fait dans notre société pour qu'on soit en troupeau. Votre père vous a toujours dit « ne sois pas un mouton ».
Ah ouais.
Comment on fait pour ne pas faire partie du troupeau ?
Mais justement, en fait, c'est essayer de toujours avoir une distance sur les choses et de revisiter des certitudes qu'on croyait avoir. Souvent, on nous transmet des choses qui sont fausses. Et donc, à un moment donné, il faut un tout petit peu se poser la question. Faut pas être complètement les aveuglément sous la coupe de ce genre de préceptes. Mais c'est un travail. Il faut pas être paresseux.
Pour
pas être un mouton, faut pas être paresseux. Il faut essayer de pas être manipulable. Faut se poser des questions tout le temps. Malheureusement, on a en permanence des informations qui nous sont données qui sont pas complètement positives et vraies en plus. Donc il faut tout le temps décrypter, se poser des questions.
Ce que vous faites, vous, au quotidien?
Tout le temps. Tout le temps. Depuis que je suis née, j'observe les gens, donc j'ai une connaissance de l'âme humaine qui fait que j'arrive à décrypter des choses. Donc j'essaie toujours de voir si la personne en face de moi est sincère ou pas.
Vos parents, Michel Larocque, n'ont pas eu vraiment le temps de vivre leur histoire d'amour avant votre naissance. Il n'y avait pas non plus de chambre pour accueillir un enfant. Vous avez donc été élevée par votre grand-mère paternelle. Vous avez 7 ans, nous sommes chez vos grands-parents, vous êtes aimé, choyé, gâté. Est-ce que gâter un enfant, c'est lui faire un cadeau ?
Oui, alors c'est vrai que mon père me disait toujours « Oui, enfin ta grand-mère cherche à t'acheter, à acheter ton amour. » Mais ça a été quand même très doux d'être gâté par ma grand-mère à ce point-là.
Pourtant, la vie ne nous gâte pas forcément quand on est adulte.
Non, mais c'est pour ça. Mais autant en profiter quand on peut l'être.
Mais après, ça peut être violent, du coup.
Non, parce que j'avais des parents qui étaient assez sévères, qui m'élevaient plus à la dure. Donc, j'avais un très chaud, très froid, on va dire. Et puis, j'ai fait beaucoup de sport, de danse et tout ça. Ça demande un sens de l'effort extrêmement développé. Donc, aujourd'hui, j'en suis très heureuse parce qu'il y a peu de choses qui me coûtent, en fait. Parce que je sais faire des efforts. Il y a eu cet équilibre. Hein.
Cette grand-mère était extraordinaire. Vous souhaitez à tous d'avoir une grand-mère comme elle. Mais vous dites, ça reste une grand-mère.
Mais oui. Elle pouvait compenser le mieux qu'elle pouvait le fait que j'étais pas avec mes parents. Donc, moi, j'ai adoré être élevée par ma grand-mère, mais il y a eu sûrement un sens de l'abandon. Enfin, voilà, c'est tout. Et ça, c'est un trauma, certainement.
Ça se guérit ?
Oui, Il y a la kinésiologie, il y a l'éthiothérapie, il y a des tas de thérapies qui font qu'on se débarrasse assez rapidement des... Enfin, je dis rapidement, il y a beaucoup de couches, hein, donc ça prend des vies entières. Mais on se débarrasse vraiment de tous les traumas.
Parce que ce genre de trauma, pour le coup, ça peut revenir dans notre vie d'adulte à plusieurs reprises.
Évidemment, mais si on l'a en nous. Après, il y a aussi une méthode qui est très simple, c'est celle d'accepter les choses... et de faire qu'on ne les enfouit pas, parce que quand on les enfouit, c'est d'autant plus puissant. Les laisser revenir, l'accepter, accueillir les choses, et puis après, ça perd de sa puissance. Mais voilà, il y a heureusement des thérapies extraordinaires.
Michèle Larocque, vous êtes fille unique, il y a des avantages, des inconvénients. Est-ce que ça vous a manqué d'avoir un frère, une sœur, ou au contraire, c'était très bien comme ça?
Ah mais j'aurais adoré avoir un frère ou une sœur avec qui je m'entende, parce que je vois malheureusement autour de moi, parfois, des choses tristes à ce niveau-là, mais quand ils s'entendent, c'est merveilleux. C'est les plus grands complices. Et un grand frère, j'aurais adoré. Puis comme ça, j'aurais connu tous ses copains. Je serais tombée amoureuse de ses copains. Ça m'aurait plu. Ils m'auraient protégée aussi.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Allez, on appuie sur le bouton. Nous sommes au 35 avenue Aubert à Nice. On va pousser cette porte. Vous êtes là en classe, la maîtresse s'absente, elle vous demande de venir au tableau pour noter le nom des élèves qui se tiennent pas bien pendant son absence. Là, vous faites le clown, elle revient, elle s'étonne, tiens, mais t'as noté aucun nom. Une petite fille rapporte, oui, mais elle a fait le clown. Et là, la maîtresse vous donne un coup sur la tête.
Ouais.
À l'école, on punit ceux qui font rire, ceux qui font le clown.
Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, justement, sur la liberté, c'est qu'en fait... les instances autoritaires veulent qu'on soit très très discipliné, c'est comme ça, veulent nous contrôler. C'est la même chose à l'école, on nous formate pour ça. Donc celui qui fait rire, il a malheureusement un pouvoir important.
Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est une force de pouvoir faire rire.
Et puis il libère ceux qui rient. Ceux qui rient sont moins disciplinés, sont tout d'un coup un peu plus lâchés, ils sont plus libres. Et donc ça
dérange.
C'est embêtant. C'est embêtant pour le prof qui a envie que tout le monde soit dans les rangs.
Alors que c'est une super force en fait, et qu'on devrait pas forcément la canaliser, frustrer.
Si j'avais été prof, j'aurais fait le contraire. J'aurais fait en sorte que les élèves chantent, les élèves rient, et que après on apprenne, et on apprend très très bien.
Quand on fait le clown plus jeune, qu'est-ce que ça cache?
Alors c'est très simple. C'est que j'avais absolument besoin de rire, moi. Quand la personne ou les circonstances n'étaient pas propices à ça, j'étais obligée de faire rire les autres pour en rire avec eux. C'est un besoin de rire très, très, très important, mais vraiment essentiel dans ma vie.
Michèle Larocque, vous avez joué des rôles de prof au cinéma, dans Ténor, prof de chant lyrique, prof de techno aussi dans Premier de la classe. Qu'est-ce qui vous touche dans le métier de professeur?
Alors d'abord, ma mère était professeure, parce qu'elle a refait ses études en France, elle a été phonéticienne à la fac. Quand j'ai eu une adolescence un peu difficile, elle se faisait engager dans les cours où j'étais, et elle était ma prof. C'était pas facile, mais c'est la transmission. C'est ça qui me plaît dans ce métier-là. C'est la transmission, et la transmission, c'est fondamental. J'adore transmettre, et parfois, c'est mes personnages qui le font.
Aujourd'hui, les professeurs, les auxiliaires de vie scolaire sont en souffrance. Il y a cette phrase qui revient souvent, on se sent si seul au quotidien. Vous trouvez qu'il y a un manque de considération justement envers ces personnes?
Alors franchement, il y a un manque de considération en général. Les gens trouvent normal que certaines personnes fassent certains métiers et se permettent de les juger en permanence. On se complète tous, heureusement. C'est pour ça que je ne comprends pas parfois certaines lois qui sont générales, alors qu'on ne peut pas comparer certains métiers à d'autres. Par rapport à la retraite, Évidemment, moi, c'est facile. Je m'amuse, j'ai un métier que j'adore, même si on travaille beaucoup, attention, hein. Mais c'est dans des conditions formidables, donc je n'ai jamais envie d'être à la retraite. Mais justement, servons-nous de gens qui font un certain métier qu'ils ont envie de faire jusqu'au bout de leur vie, pour que d'autres qui font des métiers difficiles, qui n'ont pas réussi à éviter de faire ces métiers-là et dont on a eu besoin, puissent s'arrêter tôt.
On sent que vous parlez avec le cœur.
C'est normal, je respecte et j'aime les gens, et puis on se complète tous. Moi, je suis là pour les amuser, pour leur transmettre justement des émotions. Eux, ils sont là parce qu'ils font des choses que je ne fais pas, et je les remercie vraiment. Donc soyons tous ensemble jusqu'au bout.
On part maintenant en 1979, Michel Larocque. Nous sommes à l'hôpital. Vous avez 19 ans, vous avez eu un accident, fémur en 18 morceaux, pied éclaté, traumatisme crânien, inconsciente pendant 6-7 heures. Quand on échappe au pire, on peut parfois penser « c'était tout simplement pas mon heure ». Est-ce que c'est ce que vous vous êtes dit ?
Alors, j'ai pas du tout pensé que j'avais risqué mourir. Hein. Je l'ai dit, mais sans le penser. Parce que j'ai dit « oh là là, j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne ». Mais, vous savez, il y avait une femme qui a assisté à l'accident, parce qu'il y avait des commerces là où on s'est écrasé contre un arbre. Elle a vu trois jeunes, parce que malheureusement, il y avait un garçon qui était en train d'allumer une cigarette contre l'arbre où on s'est écrasé avec la voiture. Elle a vu trois jeunes dans un état pas possible. Et quand elle est venue à l'hôpital, elle est rentrée dans ma chambre. Trois jours après l'accident, elle a fait « c'est pas possible que vous soyez vivante, c'est pas possible que vous soyez... » Donc, je me suis dit quand même, il s'est passé un truc... Ouais, c'est un peu
mais
maladroit.
Vous, mais vous vous
mais elle
dites...
avait pas dormi depuis trois jours, hein, la peau.
Mais vous vous dites de ce fait-là, c'était pas mon heure ? Est-ce que vous pensez à ça, à cette phrase
oui.
qu'on se dit ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous dire, en fait ?
Mais même aujourd'hui, je me dis que je devais pas mourir ce jour-là du tout. C'est juste que j'étais trop, justement, dans les clous, dans un chemin qui n'était pas le mien, et que malheureusement, j'arrivais pas à... Je suis pas arrivée à être sur mon chemin sans passer par cet accident. Et je le regrette infiniment, parce que... C'est quand même trois ans, deux ans, on va dire, mais presque quatre ans d'hôpital, de clinique, un an sans marcher, etc. Mais j'avais besoin de ça.
C'est fou quand même, parce que ça veut dire que c'est comme un signe de la vie qui vous dit « c'est pas par là que tu dois aller, c'est par là ».
Ouais, et puis on provoque les choses soi-même. Moi, j'y crois beaucoup à ça, même les accidents. Hein. Il m'arrive ce qui doit m'arriver.
Un an d'hôpital, Michel Larocque, deux ans d'opération, on a failli vous amputer d'une jambe, je crois, c'est ça. Hein.
Ouais.
Ce sont deux infirmières de nuit qui vous
sauvé.
Ont sauvé la jambe et peut-être la vie aussi un peu. Mmh. Un interne venait vous voir tous les jours, vous dites que vous êtes tombé sur des gens merveilleux.
Oui, incroyable, incroyable. C'était à l'hôpital de Saint-Raphaël, je ne me suis jamais rappelée de l'accident. En revanche, quand je me suis réveillée, je les ai fait rire. Et les infirmières m'ont eu à la bonne. Et elle savait que si j'allais à l'autre étage où on devait m'emmener, le chirurgien n'était pas à la hauteur des 18 morceaux dans lesquels était mon fémur. Et elles sont allées voir un jeune chirurgien, brillantissime, qui a dit « je me porte volontaire » et il m'a sauvé la jambe.
Aujourd'hui, quand vous repensez à vos deux jambes, vous dites
ah,
« j'ai les larmes aux yeux ».
Oui, j'y pense souvent. Ouais, je remercie souvent d'avoir
vous
mes
remerciez.
Deux jambes. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. On arrive à tout. Hein. Je vois des gens qui n'ont qu'une jambe, qui se surpassent, qui font même du sport et qui sont des champions. Mais c'est... La vie est déjà difficile, donc ça aurait été quand même une très grosse épreuve que j'aurais peut-être pu surpasser ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir réussi à avoir mes deux jambes. Je suis très heureuse de faire tout le sport que j'ai toujours fait de la même façon. J'ai des cicatrices, mais c'est tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je sais que j'ai travaillé pour ça aussi. J'ai pas que de la chance. Mais voilà, oui, souvent je remercie. Oui.
Vous remerciez qui ? Quoi ?
L'univers, je ne sais pas.
L'univers ?
Oui, voilà.
Énergie.
Oui, une énergie, exactement.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
L'envie de devenir actrice, Michel Larocque, s'est concrétisée après votre accident, bien que vous aviez ça en tête depuis quand même un certain moment. Votre mère vous trouve alors un cours à Antibes, téléportation. Nous sommes au 1 rue Claude Debussy, derrière cette porte du conservatoire, le cours de Julien Berthaud.
Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait nulle offense ? Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le
pouvait. Julien Berthaud devient votre prof de théâtre. Ce sont les prémices d'une vie d'actrice. Dans le film Karaoké au cinéma en ce moment, vous dites, enfin votre personnage dit, une vie d'artiste, ça commence par beaucoup de travail et des sacrifices. Quels sont les sacrifices nécessaires ?
Alors d'abord, j'ai eu beaucoup de chance encore, parce que Julien Berthaud était un grand monsieur, qu'il avait pris sa retraite sur la Côte d'Azur, mais c'était un sociétaire honoraire de la Comédie Française, c'était le comédien fétiche de Buñuel. Donc, j'ai commencé avec quelqu'un d'extraordinaire. qui a fait venir mes parents au bout de 3 mois et qui a dit il faut qu'elle parte très très vite à Paris parce qu'elle commence tard et il faut pas perdre de temps. Et comme c'était Julien Berthaud, ils ont écouté, ça suivait l'accident, mon père m'a dit, je t'ai tellement vu souffrir, parce qu'il n'était pas vraiment d'accord, il se demandait si c'était vraiment une bonne idée, il m'a dit, je ne suis pas d'accord, mais je te laisse partir. Et non, les sacrifices, si vous voulez, là, pour le coup, au début, c'est mes parents qui les ont faits, parce que Julien a dit qu'il fallait pas que j'ai un job parallèle, il fallait que je me consacre qu'à ce métier, qu'au cours, qu'à progresser, parce que je commençais tard. J'ai été très aidée hein, quand je suis arrivée.
Dans tous les métiers, on a l'impression que si on veut réussir, il y a toujours un prix à payer. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir au boulot sans que sa vie personnelle en pâtisse ?
Il y a des timings, en fait, je crois. C'est difficile de faire en même temps une famille et une grande carrière. Donc, c'est un peu décalé. Il faut un petit peu mettre toute son énergie. Enfin, moi, je ne saurais pas le faire, je crois.
C'est souvent le cas. Hein. En général, c'est soit l'un, soit l'autre qui en pâtit. C'est voilà. Difficile que tout soit compatible.
Mais en revanche, je vois parfois des gens qui s'échappent un peu de la vie en étant dans leur travail tout le temps, alors que peut-être il y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire, quand un couple s'entend bien, il y en a un qui assure du côté familial, l'autre qui assure du côté professionnel, et puis ça peut s'inverser. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Bon, c'est pas toujours possible, mais voilà. Donc, c'est bien aussi de revenir vers la vie à un moment donné, parce que nous, par exemple, on a des métiers très dangereux dans le sens où on s'amuse énormément, c'est très complet. On pourrait ne faire que ça, et ouais. Dans une vie parallèle, comme mon personnage dans le film. Parce que elle a toujours été comme sur une autre planète, elle sait pas ce que
et
c'est que de vivre.
Et on est déconnectée,
hein.
Finalement,
oui, déconnectée.
De la réalité.
Et c'est un peu facile, parce qu'on n'a pas de responsabilité. C'est ces fameuses responsabilités qui nous tombent dessus quand on commence à devenir adulte, et qui font qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, pour qui c'est très lourd, hein, parce que c'est très difficile de se sentir responsable déjà de soi, d'une famille, d'autant plus. On parlait de manipulation, on parlait de moutons. Je comprends que quand tout d'un coup ça se passe pas bien, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a des pressions de toutes sortes, on aille vers des gens qui nous font croire des choses et qu'on soit manipulable parce qu'on a peur de pas arriver à nourrir sa famille. Il faut être très, très, très fort pour rester entier et pas se laisser influencer.
C'est le désespoir.
Exactement.
Parfois.
Exactement. Mais pardon, mais Hitler, c'est ça. Ils avaient faim, les gens. Personnellement, quand je vois un discours d'Hitler, je vois un fou. Cocaïné, enfin vraiment, on dit pas cocaïné, je sais pas. Enfin bref,
si.
Oui, cocaïné, ouais. Je sais pas. On voit un fou et tu dis mais comment ? Mais moi, c'est facile. D'abord, c'est des années après, je sais ce qu'il a fait, je suis fort dans ma vie. C'est facile de le voir. Mais quand tu ne sais pas comment tu vas nourrir tes enfants...
Mais c'est le cas encore pour certains aujourd'hui
bien,
en
c'est
France.
C'est ce que je dis, je comprends, mais j'adorerais pouvoir leur donner... la force qui leur permet de ne pas se laisser avoir par certaines personnes malfaisantes.
Michel Larocque, en 1985, vous partez à Paris. À 25 ans, première pièce au Théâtre des Blancs Manteaux, Sauver les bébés femmes avec votre chien, relax. On part en 1988.
Je suis Michel Larocque. Et c'est moi qui, à partir d'aujourd'hui, vais m'occuper de la rubrique courrier.
Ah!
C'est donc moi qui vais être le lien entre vous et nous, entre moi et tu, entre elle et lui, entre Claire, justement, on t'attendait.
On vous découvre sur France 3, FR 3 à l'époque, dans la classe animée par Fabrice. L'émission cartonne, beaucoup d'artistes ont commencé dans cette émission. Lagaffe, Bigard, Laurent Ruquier, Anne Roumanoff, Muriel Robin, Pierre Palmade. Pierre Palmade, Muriel Robin, avec qui vous avez bossé sur les spectacles Ils s'aiment.
Oui.
Ils se sont aimés, ils se re-aiment, ils s'aiment depuis 20 ans.
Je vais doucement.
Oui.
Je suis à 60.
Oui, et c'est la seconde pour voir.
Ah. C'est une chieuse.
Toi aussi, connard.
Le couple, c'est un sujet hyper inspirant. C'est quoi le couple idéal pour vous ?
En fait, l'idéal, c'est deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais qui ont envie d'être ensemble et qui ont leur vie complète l'un sans l'autre, mais qui ont envie de regarder dans la même direction.
Le couple, c'est là qu'on peut régler les problèmes qu'on traîne de l'enfance aussi, les complexes. L'abandon, le non-amour
mais
aussi. Vous pensez que le couple peut soigner des blessures d'enfance ?
Alors, il sert à ça. Alors, il faut l'avoir compris. Parce que souvent on dit « Ah, ça y est !» J'ai rencontré l'amour et tout ça. Sauf que c'est le début d'un travail terrible. Et en fait, il faut comprendre de part et d'autre pourquoi on est ensemble et ce que l'autre représente pour nous par rapport à certains traumas qu'on a connus enfant. À partir du moment où on a compris, si on évolue ensemble, on peut rester toujours ensemble. Si on n'évolue pas ensemble, il y en a un qui arrête. Voilà. Mais c'est vraiment important de comprendre parce que si on comprend pas, on peut arrêter tant qu'on veut et on repart toujours avec le même mais qui n'a pas le même physique et on a l'impression que vraiment non, alors là cette fois-ci, alors ça y est, alors là vraiment, ça y est, c'est fini. Et puis en fait, ça revient.
France Bleu, dans le rétro.
Michel Larocque, on évoquait les sketchs, ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment, ils s'aiment depuis 20 ans, elles s'aiment, mais il y a aussi cette grande histoire d'amitié avec Muriel Robin et Pierre Palmade. Il y a 3-4 ans, je vous avais demandé si l'amitié, c'était pas parfois douloureux, et vous m'aviez dit, en parlant de Pierre Palmade, ce n'est pas facile d'être ami avec quelqu'un qui a de lourds bagages et qui est dans l'autodestruction.
Il n'y a pas eu que Pierre, j'étais amie avec Jacques Villeray, voilà. Et oui, c'est pas facile quand on aime quelqu'un de le voir se détruire.
Est-ce qu'on peut sauver un ami quand il s'auto-détruit?
Ce qu'on peut faire, c'est lui indiquer des possibilités d'évoluer et justement de se débarrasser des traumas qui font qu'il se détruise. Mais on ne peut pas les forcer. Et on ne peut pas non plus faire en sorte que ça marche. Vous savez, parfois, par loyauté, il y a des abus que certaines personnes occultent parce qu'ils n'ont pas envie de savoir que telle ou telle personne de leur famille leur a fait ça. Et qui ont envie de continuer à aimer tous les membres de la famille et ne pas les mettre dans certaines situations de culpabilité. Donc du coup, ils se sacrifient les gens pour ça. Malheureusement, ça se passe entre soi et soi, l'autodestruction. Ouais.
Un ami ne peut pas sauver quelqu'un.
Malheureusement pas. Aider. Il peut aider. Mmh. Il peut être là. Il peut être présent. Mmh. Toujours. Un ami
toujours,
ouais, peut être présent toujours, mais c'est la seule chose qu'il puisse faire. Ouais.
Michel Larocque, elle affiche au théâtre, puis elle affiche au cinéma. 1992, La Crise, Pédale Douce en 95, Le Placard de Francis Weber. J'ai faim, là on est en 2001, on part en 2006.
Attendez, je suis désolée, ça va, vous avez rien?
Ouais, ça va, mais... Oh
Oui, bon, allez, là, parce que moi, je suis super pressée. Alors, vous avez un truc pour noter, je vais vous donner...
On est au cinéma, là, sur l'écran, le film « Comme t'y es belle ». Dans ce film, Isabelle, Léa, Alice et Nina cherchent chacune à leur façon le prince charmant. Oui. Aujourd'hui, les magazines féminins s'interrogent. Et si on laissait tomber le prince charmant, mieux vaut être seul ou croire au prince charmant? Et si on arrêtait avec le mythe du prince charmant? Vous pensez que le prince charmant nous fait du mal?
Moi, je crois qu'il y a des petits malentendus. Déjà, entre être amoureux et l'amour... c'est très différent. Et surtout, je crois qu'on n'a pas compris qu'il fallait... La première histoire d'amour à vivre, c'est soi avec soi. Et apprendre à s'aimer. Parce que je ne vois pas comment on peut aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas soi, déjà.
Ça vient peut-être avec le temps aussi.
Oui, mais c'est le travail d'une vie. Quand vous ne vous aimez pas, vous allez chercher dans le regard de l'autre la valeur que vous avez. Donc, ce n'est pas de l'amour, pardon. Ça, c'est, oui, être amoureux, et c'est, alors, comment tu me trouves? Tu m'aimes vraiment combien? Comment? Tout ça, voilà. Alors que quand on s'aime, on est capable de voir les qualités de quelqu'un, de ne pas le juger, d'avoir vraiment envie et pas besoin, encore une fois. C'est très important, la différence, elle est fondamentale, de rencontrer et de passer un moment dans sa vie avec la personne. Et ça, c'est merveilleux. Mais pour ça, il faut s'aimer, il faut avoir besoin de personne, il faut avoir une vie complète, il faut aimer la vie toute seule ou tout seul. Et après, voilà, là après, c'est de l'amour.
Pour s'aimer soi-même, parfois, ça prend toute une vie.
Ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être amoureux avant un certain âge parce que justement, on ne s'aime pas?
Non.
Ça peut mettre du temps alors,
oui,
dans ces cas-là.
Alors, je pense qu'on peut être en couple, en vrai couple, comme on le disait tout à l'heure, parce que les traumatismes, l'autre va apporter l'épreuve dont on a besoin pour évoluer, qu'on doit comprendre et qui ramène à un traumatisme ancien. Et là, si ça marche, eh ben ça y est, ça avance, mais ensemble. Ouais. Ça peut être un couple, mais qui passe de la sixième à la cinquième, à la quatrième, à la... Non, mais voilà. Et là, ça peut être toute une vie. Donc, c'est ça l'amour aussi, hein.
Les personnages de la comédie Comme t'y es belle font comme elles peuvent, entre leur rôle de mère, de femme, d'épouse, de bonne copine. Aujourd'hui aussi, il faudrait pouvoir tout gérer. Être une femme, une mère, une épouse, une bonne copine. Est-ce qu'on se met pas parfois un peu trop la pression?
Ouais, je crois qu'on la met trop, mais ça, c'est quand on veut être trop bien. Justement, quand on s'aime, on n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. On a des envies de réussir et de faire les choses par plaisir de le faire. Mais si c'est pour se prouver quelque chose, c'est moins important. En revanche, qu'est-ce qu'elles sont fortes, les femmes ? C'est dingue. C'est dingue. Et je suis très, très heureuse d'être une femme. Et je suis très fière aussi parce que je trouve que on apporte beaucoup à la société et aux hommes, que je respecte beaucoup. J'aime beaucoup aussi ma position de femme par rapport à l'homme, qui a d'autres forces. Et je trouve que c'est merveilleux de vivre cette vie comme ça ensemble.
Est-ce que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui ?
Je ne sais pas, parce que j'ai eu un exemple de mère incroyable, qui est arrivé dans un autre pays, qui a appris la langue, qui a refait ses études, qui est courageuse, qui est forte, qui est douce et indépendante.
Donc vous aviez ce modèle.
Donc
en fait.
Si vous voulez, je me suis jamais dit qu'une femme pouvait être autrement. J'ai ce modèle et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais dépendu d'un homme financièrement. Il n'y a eu aucune dépendance, en fait. Donc, ça n'est pas difficile d'être une femme quand on est comme ça. Mmh. Maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, et comme je suis forte, moi, je me remets en question, justement, par rapport à ce qui se passe. Et je me dis, soyons ensemble les femmes. Et il y a des femmes qui sont peut-être plus fragiles parce qu'elles n'ont pas eu cette construction-là, cet exemple-là. Et ben voilà, je suis là pour les aider si elles ont besoin de moi. Ça, c'est important de le dire. Parce que on se complète. J'ai la chance d'avoir cette force, et ben que tout le monde en profite. Voilà.
Après Comme tu es belle, Michel Larocque, vous tournez avec Danny Boone, Cadmerade. Il y a en 2006 Camping 3, des téléfilms aussi, et puis vous passez à la réalisation, d'abord brillantissime, et en 2021 sortent Alors on danse et Chacun chez soi. Vous êtes là en promo pour le film. Vous parlez de Stéphane de Groot, le père de famille et votre mari dans Chacun chez soi.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse pour ce personnage et j'étais très heureuse que Stéphane le joue parce qu'on voit quelque chose d'ailleurs de lui qu'on voit rarement. Et j'avais très envie de filmer ça de lui. C'est une belle âme, Stéphane, et j'avais envie de capturer ça.
C'est quoi une belle âme ?
C'est compliqué à expliquer parce que parfois... Il y a, c'est ce que je ressens, attention, hein, je détiens pas du tout la vérité, mais il y a des âmes lumineuses qu'on ressent chez quelqu'un qui n'a pas toujours les comportements qui correspondent à leur âme. Donc, il faut aller plus loin que ce qu'on peut percevoir au premier abord pour, à un moment donné, sentir qu'il y a vraiment beaucoup de lumière et de luminosité en eux.
Parce que parfois, les gens... Ça se ressent, ça se voit. C'est dans le regard.
Dans le regard, beaucoup. Parce que quand même, le regard est le miroir de l'âme, c'est vrai. Et donc, effectivement, c'était un grand plaisir de travailler avec Stéphane. Mais c'est vrai que c'est un peu aussi le rôle du metteur en scène, du réalisateur, d'être un coach, un chef d'équipe qui va prendre le meilleur de toute l'équipe pour qu'on fasse ensemble de la plus belle façon, un film, donc, on racontait une histoire qui peut ouvrir des portes. Justement, on a cette responsabilité-là aussi, où les artistes, c'est d'ouvrir des portes par le biais des histoires qu'on raconte et de faire en sorte que tout d'un coup, ça fasse des déclics auprès de gens qui sont prêts. Hein. Vous ne pourrez jamais faire un déclic auprès de quelqu'un qui est complètement fermé. Mmh. Mais il y a certaines personnes que ça peut vraiment aider.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grünwald.
On part maintenant en 2024. Nous sommes au Théâtre Saint-Georges à Paris pour La Porte à Côté. Vous êtes sur scène avec Grégoire Bonnet, vous êtes voisin de palier. Vous ne pouvez pas vous saquer, vous êtes complètement différent. Le seul point commun que vous ayez, c'est que vous cherchez tous les deux l'amour sur Internet. Vous vous interrogez alors sur vos propres désirs et sur ce qui vous unit. Est-ce que vous pensez que deux personnes diamétralement opposées peuvent finir par s'aimer ?
Oui, mais ils sont peut-être pas diamétralement opposés. Ils ont l'impression de l'être. Ça aussi, c'est des perceptions. Ils se chamaillent beaucoup parce que justement, je pense que comme les enfants qui se sont très attirés les uns par d'autres et qui tout d'un coup vont être un peu agressifs parce qu'ils supportent pas l'attirance qu'ils ressentent. Là, c'est très drôle, c'est très intelligent, c'est merveilleusement écrit par Fabrice Roger Lacan. Alors, il y a plusieurs choses qui me font plaisir, c'est que j'adore le théâtre Saint-Georges parce que je n'aime pas projeter des dialogues contemporains. Et là, c'est un petit théâtre où vraiment on projette à peine et les gens entendent très très bien. Donc, il y a une proximité, les gens peuvent capter même dans l'œil ce qu'on peut ressentir. Donc ça, c'est très agréable. Et l'autre chose, c'est qu'on fait rire de manière intelligente. Mon personnage est psy, donc elle décrypte un peu tout. Elle dit que c'est un vendeur de yaourt parce qu'il est chef de produit chez Yoplait, etc. Et du coup, lui apporte quelque chose, une espèce de bonhomie de la vie. Elle est toujours en train d'analyser tout. On s'attache à ses personnages, mais on ne va pas vers la facilité dans notre façon de faire rire. On prend pas les gens pour des cons. Ça fait du bien au public.
Vous pensez que c'est difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un quand on est célibataire ?
Faut d'abord se rencontrer soi-même.
Mais c'est facile de rencontrer les autres aujourd'hui, parce que là, justement, dans cette pièce, la rencontre, voilà, c'est des rencontres sur Internet. Est-ce qu'on est obligé de passer par là aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus difficile de se rencontrer finalement aujourd'hui ?
Moi, je crois que quand on est prêt, quand on a réglé ses problèmes, il vient sonner chez vous, le mec ou la nana.
Ça, c'est merveilleux.
Je vous le dis. Moi, je pense ça, sincèrement. Donc, si ça passe par des sites ou des applis, eh ben voilà, il faut faire comme on sent. Moi, j'ai jamais fait, mais j'aime les rencontres. Je suis à l'ancienne, quoi. On a notre construction avec la société qui nous voit grandir. Donc, voilà, moi, je fais comme avant. J'ai pas envie de faire différemment. Mais il y a des gens qui ont besoin. Le seul truc qui est important, c'est déjà apprendre à s'aimer, se rencontrer soi-même. Et après, on est prêt à rencontrer quelqu'un.
La porte à côté, c'est doux, c'est tendre, c'est amusant, c'est au Théâtre Saint-Georges à Paris et c'est intelligent, c'est jusqu'au 10 avril. Je dis ça, mais en fait, le bouche à oreille fonctionne très très bien.
Ouais, ça a très bien passé. Mais
c'est plutôt
les gens
bon signe.
Je pensais pas qu'il y a des rires énormes, vraiment énormes. On est très complices avec le public. Moi, je me retiens parfois de pas rire avec eux parce qu'on sait très bien pourquoi ils rient et ça fait du bien.
Michel Larocque, on termine avec un extrait musical, notre voyage. La dernière fois, on avait fini l'émission avec un chant lyrique. Aujourd'hui, on termine avec ça.
Ouais, alors ! Ouais, alors ! Ouais, alors ! Ouais, alors ! Ouais, alors !
Vous vous ambiancez sur ce
titre. Ouais, ouais. Mais je suis assez fière d'avoir chanté
Jules. Jules, ouais, alors !
Ouais, je suis assez fière parce que c'était pas évident à prendre. Et du coup,
vous pouvez
voilà.
Me le faire là ou pas ?
Non, je ne peux plus. J'élimine malheureusement les choses parce que comme j'ai appris, j'ai tourné ce film en début d'année dernière, j'en ai tourné 4 depuis, plus la pièce. À mon avis, je dois mettre dans des tiroirs, mais j'ai pas la clé.
Clin d'œil donc au film karaoké, c'était Jules, wesh alors. C'est pas la première fois que vous jouez dans un film où deux milieux se rencontrent, le lyrique et l'art de rue. Il y a eu Ténor aussi. La musique, elle vous habite. On peut citer Chérif Kébass. Pour finir cette émission, la vie est une très belle mélodie pour ceux qui prennent la peine de l'écouter. Vous êtes d'accord
Bien
avec
sûr,
ça
mais bon, c'est facile à dire parce qu'il y a des vies qui sont tellement semées d'épreuves terribles que... Bon, voilà, on peut pas dire ça pour tout le monde, il faut être très fort parfois. Mais la vie, on peut rendre la vie belle. On a beaucoup de pouvoir, ça j'y crois. Je crois qu'on peut créer beaucoup de choses dans sa vie.
S'auto-persuader.
Oui, et puis créer, visualiser des choses belles. Et vous savez, quand j'étais petite, petite et adolescente, j'étais pas forcément heureuse et j'ai rêvé énormément. J'ai rêvé et je pense que j'ai créé ma vie.
Merci Michel Larocque.
Merci à vous.
Et comme dirait Jules, vous allez niquer le game.
Grave.
Avec karaoké. Une comédie positive, drôle, bienveillante et pétillante. Comédie signée Stéphane Ben Lassen avec Claudia Tagbo et Michel Larocque. Au ciné en ce moment, dans le rétro, cette émission et toutes les autres sont à retrouver en podcast. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.